mardi en temps universel, 14h à Paris. Merci d'être à l'écoute sur RFI.
RFI Midi. Sophie Pouzrat.
Une demi-heure ensemble pour faire le tour de l'actualité internationale avec à la une Kiev et Moscou qui se renvoient la balle. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir lancé des attaques pendant le cessez-le-feu instauré par Moscou pour les fêtes de Pâques. Une trêve pascale qui laisse la population ukrainienne dubitative, vous l'entendrez. Pâques célébrée donc par les chrétiens dans le monde entier, y compris à Jérusalem. Malgré le contexte sécuritaire tendu et le conflit qui se poursuit à Gaza, les fidèles étaient réunis dans l'église du Saint Sépulcre pour célébrer la messe de ce matin. La messe pascale a aussi eu lieu à Notre-Dame de Paris. C'est la première célébration de cette fête depuis l'incendie de la cathédrale en 2019. Le cessez-le-feu décrété hier par Moscou sur le front ukrainien pour les fêtes de Pâques est toujours en vigueur et pourtant, les deux parties s'accusent mutuellement de l'avoir enfreint. Hier soir, Volodymyr Zelensky accusait la Russie de violer sa propre trêve en attaquant plusieurs endroits du front et en visant la ville de Kherson avec une attaque de drone. À présent, c'est le Kremlin qui dit avoir repoussé des attaques ukrainiennes sur le terrain, notamment vers les régions russes frontalières de Bryansk, Koursk et Belgorod. Dans ce contexte, en Ukraine, parmi la population, aucune foi n'est prêtée aux propos de Moscou sur cette trêve qui semble déjà avoir été violée plusieurs fois de la part de la Russie. Lors d'un rassemblement pour les prisonniers de guerre ukrainiens en plein centre de Kiev, notre correspondante en Ukraine, Emmanuel Chaz, a demandé à des participants ce qu'ils pensaient de cette annonce de Vladimir Poutine.
Ce n'est pas une vraie trêve, non. Les Russes l'ont annoncé tellement de fois qu'on n'a plus la force de leur faire confiance. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, seulement sur nous.
Eh bien, nous partageons un seul avis ici. Bien sûr, tout le monde veut que la guerre se termine et tout le monde attend que Poutine s'en aille dans l'autre monde et que tout cela finisse simplement lorsqu'il n'y aura plus assez de force pour combattre.
Je ne pense pas que tu puisses croire quoi que ce soit à ce sujet. Ça n'arrivera pas. Ce sont des mots creux.
Des propos recueillis à Kiev par Emmanuel Chaz. Les fêtes de Pâques célébrées à travers le monde entier, donc, et à Jérusalem également. Hier, les cérémonies du feu sacré ont été émaillées de violences et d'accrochages avec l'armée israélienne. Mais l'ambiance était complètement différente en cette matinée de dimanche de Pâques. Pour des fidèles chrétiens du monde entier, venir fêter Pâques à Jérusalem, c'était un rêve devenu réalité. Alors malgré une situation géopolitique et sécuritaire très tendue, certains ont tenu à faire le voyage. Reportage dans l'église du Saint-Sépulcre, le lieu qui, selon la tradition chrétienne, abrite le tombeau du Christ et où l'émotion, forcément, était très forte. Ce matin, Amira Swilem s'est mêlée à la foule des fidèles.
Les chants s'élancent et Marc, texan de 65 ans, peine à retenir ses larmes.
Je suis venu exprimer ma gratitude pour la vie que j'ai eue. Tout n'a pas été parfait, mais j'ai été heureux. J'ai bien profité de Jérusalem. Je peux rentrer chez moi maintenant et essayer de mettre de l'ordre sur tous ces souvenirs. Cela m'émeut d'en parler là.
Dans la foule de fidèles du monde entier, trois amis originaires du Timor oriental ne perdent pas une miette du spectacle.
On se sent plus proche de Dieu ici. Ces célébrations rassemblent des gens de partout et tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes, ont pris le même Dieu. C'est très très beau.
Longue robe de sœur d'un bleu éclatant et lunettes de soleil vissées sur le nez, Rebecca arrive du Nigeria. Tension, guerre ou pas, elle n'aurait raté cela pour rien au monde.
Tout s'est passé ici, Jérusalem. J'appelle cela la Bible visuelle. On est venu quand la guerre a commencé, après le 7 octobre. On est venu en décembre. On est revenu pour Pâques. C'est comme ça, c'est notre foi.
Jérusalem avait des airs de centre du monde ce matin. Un répit qui ne fait pas oublier que les chrétiens palestiniens des villes alentours peinent de plus en plus à pouvoir accéder aux lieux saints. Amira Swilem, Jérusalem, RFI.
Et dans ce contexte, l'offensive israélienne se poursuit à Gaza. Des nouveaux bombardements ont fait 25 morts depuis le début de la journée, selon la défense civile palestinienne. Un conflit dénoncé par le pape François ce dimanche, à l'occasion des célébrations de Pâques au Vatican. Il dénonce, je cite, la situation humanitaire dramatique et ignoble à Gaza. Le souverain pontife appelle aussi les belligérants à cesser le feu et à la libération des otages, dans un discours prononcé par un collaborateur au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. Après celle-ci s'est offert un bain de foule à bord de sa papa mobile pour le plus grand plaisir des fidèles, car jusqu'à ce matin, l'incertitude régnait sur son apparition publique. En effet, le pape François, âgé de 88 ans, est toujours en convalescence d'une pneumonie et son état de santé reste fragile. Les fidèles réunis pour Pâques au Vatican, à Rome donc, et bien sûr à Notre-Dame de Paris. Et pour la première fois depuis l'incendie d'avril 2019 qui avait ravagé la cathédrale et les travaux de restauration qui s'en sont suivis, les offices de la Semaine Sainte et de Pâques sont célébrés dans le monument historique. Un dimanche pascal particulier, donc marqué par une forte affluence des fidèles. Reportage d'Arambeng.
Sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, de nombreux fidèles font la queue pour assister à la deuxième messe de la journée. Parmi eux, cette femme venue spécialement d'Avignon.
Oui, c'est très important d'être là pour la solennité de Pâques, d'être à Notre-Dame de Paris.
Vous avez espoir de pouvoir entrer parce qu'il y a du monde, hein?
J'espère. Bon, d'ici ce soir, ce sera possible, je pense.
Ces touristes venus de Lyon pour visiter Paris a voulu profiter de l'occasion pour assister à la messe, mais...
Je pense qu'on ne va pas assister à la messe, il y a énormément de monde, mais on reviendra pour profiter de Notre-Dame demain, je pense.
Jean-Luc, lui, n'a pas peur de faire la queue. Ses fidèles parisiens étaient là samedi et comptent bien assister à la messe pascale.
J'étais pour la vigile pascale hier soir et j'étais là aussi mercredi pour la messe chrismale et jeudi pour la Sainte Cène. Il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui parce que c'est quand même le jour de Pâques.
Rayonnant, ce couple de provinciaux vient juste de sortir de la messe précédente.
L'église était pleine. C'est quelque chose qui construit la foi des hommes. C'est quelque chose de puissant, d'inexplicable. La raison n'a pas sa place, c'est la folie. La folie.
C'était une messe en latin, donc ça nous ramène quelques décennies avant.
Espoir et amour, c'est ce que souhaitent la plupart des fidèles en ce jour de Pâques, célébré par l'Église catholique et orthodoxe.
Un reportage d'Arambeng. Lui aussi a fêté Pâques, et pas de n'importe quelle manière. Le vice-président américain J.D. Vance a célébré cette fête au Vatican, fervent catholique. Il a rencontré le pape François pendant quelques minutes. Et cette rencontre, elle a lieu 2 mois après les vives critiques du chef de l'Église catholique contre la politique migratoire de l'administration Trump, qu'il avait notamment qualifié de crise majeure. Cette politique, elle est au cœur de la gronde anti-Trump aux États-Unis ce samedi, avec cette deuxième journée de mobilisation contre le président américain en l'espace de 2 semaines. Les organisations de défense de la démocratie ont recensé plus de 1400 événements. Des milliers de manifestants ont particulièrement dénoncé la politique anti-immigration de la Maison-Blanche, alors que la Cour suprême vient de suspendre les expulsions de migrants vénézuéliens. À Austin, le reportage de Nathanaël Vitran.
Comment appelez-vous une administration qui fait un usage illégal de la violence contre des civils pour des raisons politiques ? L'administration Trump est une organisation terroriste.
Nous sommes devant le Capitole du Texas, à Austin, la capitale. C'est dans ce bâtiment que sont votées certaines des lois les plus conservatrices des États-Unis sur l'avortement, sur l'immigration. Et c'est aussi ici, sur les pelouses, devant le Capitole, que les opposants à Donald Trump ont décidé une fois de plus de se réunir pour dire « hands off, pas touche ».
Je m'appelle Jim Summers et je suis ici pour sauver la démocratie. On se dirige vers un régime autoritaire. Les gens sont enlevés dans la rue, leurs droits sont niés, les procédures ne sont pas respectées, les universités sont attaquées. Des gens qui sont ici légalement sont expulsés. Je me sens le devoir de faire quelque chose pour mon pays. Do
something for the country. Au milieu de la foule, avec son parapluie rose, on repère facilement Allison. Ce n'est pas le nom qu'elle s'est choisi. Elle nous a demandé, pour des raisons de sécurité, d'en choisir un autre. Comme beaucoup de personnes trans aux États-Unis, elle ne se sent plus en sécurité.
Ils s'en prennent constamment aux personnes trans. C'est une stratégie. Et ce qu'on fait aux migrants dans ce pays, c'est terrifiant. Nous avons l'impression d'être les prochains sur la liste.
Avant de se séparer, la foule reprend en chœur. Je me bats pour mon pays, comme un arbre au bord de l'eau. Je ne fléchirai pas. Nathanaël Vitran, Austin, RFI.
Et l'actualité continue tout de suite avec les sports, avec vous Baptiste Leduc. Bonjour Baptiste.
Bonjour Sophie.
Et du football en Espagne, le Real Madrid doit gagner ce soir pour espérer sauver sa saison.
Ce sera un match contre Bilbao pour ne pas laisser filer le Barça en tête du championnat. La Liga, dernier objectif du Real depuis l'élimination en Ligue des Champions. Une fin de saison plus terne que d'habitude pour les Madrilènes qui posent une question. Est-ce la fin de l'ère Carlo Ancelotti à la Maison Blanche? L'entraîneur italien laisse planer le doute sur son avenir et ne prendra une décision qu'à la fin de la saison.
Tout peut se passer. Je pense que nous devrons faire un bilan en fin de saison afin de se projeter sur le futur. Mais lorsque nous sommes encore en course pour des titres importants comme la Liga, que nous avons une finale la semaine prochaine en Coupe, ou que la saison se termine par la première édition de la Coupe du Monde des clubs, j'estime qu'évoquer ce sujet à ce moment précis est malvenu. Ceci dit, nous en parlerons, évidemment.
En attendant, Carlo Ancelotti sera bien sur le banc du Real ce soir à 19h temps universel pour la réception de l'Athletic Bilbao, sans Kylian Mbappé sur le terrain, le Français blessé à la cheville et de toute façon suspendu.
Le football, toujours, et le retour du derby le plus chaud de France ce dimanche à Saint-Étienne.
L'Olympique lyonnais se déplace chez son rival de voisin, enjeu bien plus que la suprématie régionale. L'OL doit gagner pour guérir de son élimination cruelle en Ligue Europa et rester en course pour le podium en Ligue 1. Et pour les Stéphanois, c'est victoire obligatoire dans la quête du maintien. Ce sera bouillant à Geoffroy Guichard. On écoute le défenseur congolais des Verts, Dylan Batoubinsika. Il est au micro de Cédric Di Oliveira.
C'est sûr que c'est un match symbolique pour nous, un match très important. C'est un derby, donc ça se gagne. Peu importe la position des deux clubs au classement ou voilà le moment dans lequel on joue le match. Nous, notre objectif, et le leur aussi certainement, c'est de gagner ce match. Ça fait plaisir à toute une ville, à tout un club et plein de supporters voilà qui sont derrière nous et qui attendent ce rendez-vous avec impatience. C'est un match très important pour le peuple vert.
AS Saint-Etienne, Olympique Lyonnais, le derby, coup d'envoi, 18h45, temps universel.
Le basket à présent, ça y est, les playoffs de la NBA sont lancés.
Après une première soirée samedi marquée notamment par la victoire de Minnesota sur le parquet des Lakers, et celle en prolongation de Denver devant les Los Angeles Clippers, suite et fin des premiers matchs de ce premier tour ce dimanche. À 17h, TU, le Thunder d'Oklahoma City, la meilleure équipe de la saison régulière, affronte Memphis. Ce sera suivi de Boston Celtics, le champion en titre contre Orlando, puis Cleveland, Miami, et enfin Houston opposé aux Golden State Warriors. Joli programme. Et pour les amateurs de basket, Sophie, rendez-vous immanquable ce dimanche sur RFI, Mondial Sport, 16h10 temps universel, avec un invité exceptionnel, Jean-Aimé Toupane, le sélectionneur franco-sénégalais de l'équipe de France féminine de basket.
Et on referme ce journal à toute vitesse, Baptiste, à la Formule 1, qui fait étape en Arabie Saoudite ce week-end.
Cinquième étape de la saison sur le circuit urbain et très impressionnant de Jeddah. Le départ de la course, 17h TU, avec en pole position le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen. Le Néerlandais s'élancera devant l'Australien Oscar Piastri. Le leader du championnat pilote Lando Norris ne partira que dixième après son accident en qualification samedi. Et Lewis Hamilton et sa Ferrari sont quant à eux septième sur la grille de départ.
C'était le journal des sports. Merci Baptiste Leduc. On en parlait dans le journal ce dimanche, jour spécial pour les chrétiens du monde entier, le dimanche de Pâques, fête la plus importante de l'année pour les croyants. Et c'est l'occasion pour de nombreuses personnes de se faire baptiser, notamment d'entrer au sein de l'Église catholique. En France, ce week-end, ils sont presque 18 000 selon une enquête publiée ce vendredi par la Conférence des évêques de France. Et c'est un chiffre en forte hausse, 45% de plus que l'an dernier pour les adultes, dont beaucoup de jeunes, 18-25 ans, 33% chez les adolescents. Par ailleurs, en allant sur les réseaux sociaux comme TikTok, on a pu voir que de nombreux jeunes ont suivi le carême, qui a pourtant l'image d'une pratique désuète du catholicisme. Alors pour parler de ce regain d'intérêt des jeunes pour l'Église catholique, nous sommes avec le père Benoît Pouzin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RFI. Vous êtes prêtre du diocèse de Valence, curé de la paroisse Saint-Émilien. Et vous êtes aussi une star des réseaux sociaux, puisque près de 157 000 personnes vous suivent sur TikTok et certaines de vos vidéos cumulent plus d'un million de vues. Alors, est-ce que vous vous êtes mis aux réseaux sociaux pour toucher les jeunes particulièrement ?
Alors, en fait, je suis venu sur les réseaux sociaux parce que j'ai pris conscience, en fait, que beaucoup de personnes, pas seulement des jeunes, étaient présents sur les réseaux. Et je me suis dit, c'est important d'être présent là où sont les gens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me lancer tout simplement. Et surtout, en me lançant, l'idée, c'était de pouvoir répondre à des questions très simples que les gens pouvaient me poser sur la foi, sur Dieu, sur les sacrements, l'Église, et surtout comment progresser en fait dans sa vie chrétienne. Et là, typiquement avec le carême, on a vu vraiment un regain, puisque beaucoup de jeunes, particulièrement des jeunes, ont voulu vivre vraiment, comme ils disent, un vrai carême, c'est-à-dire en disant mais apprenez-nous un peu plus, qu'est-ce que ça veut dire prier, qu'est-ce que ça veut dire jeûner, qu'est-ce que ça veut dire l'aumône.
Et justement, cette pratique du carême chez les jeunes, est-ce qu'elle peut être influencée par le fait aussi que cette année, au niveau calendaire, le carême coïncide avec le ramadan, dont on parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux ?
Oui, tout à fait. Je trouve que c'est ça qui est très beau. Cette année, c'est vrai que le carême était en même temps que le ramadan. Et donc, quelque part, c'est vrai, les musulmans n'avaient pas peur, eux, de dire comment ils vivaient leur ramadan. Et donc, beaucoup de jeunes qui se disent chrétiens se sont dit, nous aussi, on a envie vraiment de vivre. Moi, la grande question que j'ai entendue, c'est on a envie de vivre un vrai carême. Comment faire? Alors, moi, je leur dis, si tu veux vraiment vivre ton carême, c'est important de bien le commencer. Donc, viens à la messe. Le premier grand rendez-vous, c'est la messe du mercredi des cendres. Et effectivement, on a vu partout en France, on a parlé de raz-de-marée. On a vu beaucoup de gens, beaucoup de jeunes venir vivre cette messe des cendres où habituellement, on a plutôt des gens assez initiés et qui sont venus vraiment commencer leur carême dans un esprit vraiment de volonté, de vivre vraiment ce que le Seigneur les invite à vivre, c'est-à-dire partir au désert, vivre davantage, se rapprocher davantage de Dieu, se rapprocher davantage des autres aussi par l'aumône. Et puis, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie de purifier pour être toujours plus ouvert à Dieu et aux autres. Et ça, c'était vraiment un vrai souci qu'ils portaient dans leur cœur.
Est-ce que c'est justement ce regain d'intérêt un peu de l'Église catholique chez les jeunes, c'est une tentative peut-être de trouver du sens dans un monde qui parfois en manque ?
Alors c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été baptisés tout petits, il y en a d'autres qui sont très loin de la foi, mais en fait la vraie question de fond c'est que tout être humain se pose des questions, en fait tout être humain est spirituel, on se pose tous des grandes questions existentielles et il y a en nous tous une quête finalement de Dieu, alors après on est libre de croire ou de ne pas croire, mais on cherche à donner du sens, beaucoup. Et ça, les jeunes sont très sensibles à ça. Les grandes questions existentielles, comme qui je suis, pourquoi je vis, pourquoi je suis sur la terre, pourquoi si un jour je vis, je vais mourir. Et donc, c'est vrai que la foi répond à toutes ces grandes questions, parce que elles disent tout simplement que Dieu aime chaque être humain et que tout être humain est appelé au bonheur. Et ce bonheur, c'est tout simplement d'aimer Dieu, d'aimer les autres. Et une vie, elle est comblée de joie, elle est comblée de bonheur quand on est capable d'aimer. Et donc, c'est vrai que les jeunes, ils ont vraiment une quête et en même temps, ils ont un désir de vivre les choses à fond.
Sous quelle pratique ils viennent trouver la religion ? Est-ce que c'est des codes un peu stricts ? Est-ce que c'est une forme de radicalité dans la pratique ou pas forcément ?
Non, je pense pas forcément. Mais par contre, ce dont ils ont besoin, c'est d'une certaine forme d'exigence. C'est-à-dire que c'est important, je pense, pour eux, qu'on soit capable de leur dire, tu vois, la messe, c'est pas comme quand tu veux, quand t'as envie. Non, c'est tous les dimanches. C'est important de pouvoir régulièrement vivre le sacrement de réconciliation. C'est important de pouvoir prier tous les jours. Donc, donner en fait un peu tous ces éléments nécessaires pour qu'ils puissent. Exactement, pour qu'ils puissent vivre leur foi. En fait, ils ont simplement besoin de ces cadres et aussi d'une certaine exigence qui consiste à dire, si tu veux vraiment grandir dans la foi, voilà comment tu peux te rapprocher tout simplement de Dieu et des autres. Et en fait, la foi, c'est pas un catalogue moralisant, c'est pas il faut pas. C'est plus exactement d'être capable de se tourner vers Dieu qui est tout amour et qui est capable de combler une vie et donc de vraiment donner du sens à sa vie.
Et justement, on peut se poser aussi la question de peut-être un effet de mode religieux parce qu'on sait que les trends, on appelle ça les trends sur TikTok, notamment des réseaux sociaux, elles sont assez éphémères, une trend en chasse une autre. L'enjeu, c'est aussi de garder, j'imagine, ces jeunes qui viennent vers la religion à travers les réseaux.
Alors, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, le cardinal Aveline, qui est le nouveau président de la Conférence des évêques de France, disait bien, attention, ne crions pas trop cocorico, parce que on a plus de 10 000 adultes qui sont baptisés dans la nuit de Pâques, plus de 7 000 adolescents. Et là où il a raison, c'est qu'il dit comment on les accueille, comment on les accompagne, comment on est avec eux et comment effectivement on est avec eux pour leur dire que le baptême c'est pas une fin mais c'est le début de toute leur aventure de la vie chrétienne. Et donc nous notre présence sur les réseaux c'est aussi dire comment poursuivre, comment continuer. En tout cas là depuis le mercredi décembre, on sent quand même qu'il y a une certaine embellie, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de jeunes. Donc l'idée c'est qu'il faut pas que ce soit effectivement un effet de mode entre guillemets mais que à nous justement d'accompagner, d'aider, d'accueillir et de pouvoir soutenir dans la foi les personnes qui veulent cheminer, bien sûr.
Très très rapidement, est-ce que cet engouement sur les réseaux, il permet aussi à l'Église de se redonner, de se redorer un peu cette image qui peut être désuète en France, et une image aussi écornée par des récentes affaires comme Bétaram par exemple, ou les révélations sur l'abbé Pierre?
L'idée surtout, c'est de dire exactement comme Jésus, qui allait à la rencontre de toutes les personnes, qui avaient peur de rien, qui avaient peur de personne. Au contraire, il n'est pas venu pour juger, pour condamner, il est allé à la rencontre de tous. C'est un moyen d'aller aussi à la rencontre de tout le monde, et donc de pouvoir être aussi là où sont les gens. Ils sont sur les réseaux. Alors après, l'idée, c'est de les aider à passer du virtuel vraiment au réel, c'est-à-dire tout l'enjeu, c'est de pouvoir les aider à entrer, à vivre leur foi en Église avec des gens, parce que l'Église, c'est un lieu de communion, de fraternité, de joie, et on peut pas vivre sa foi tout seul.
Un lieu qui a rassemblé beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui pour la fête de Pâques. Merci beaucoup, Père Benoît Pouzin, d'avoir été notre invité sur RFI pour aller plus loin sur cette hausse des baptêmes dans l'Hexagone. Je vous invite à écouter le reportage France qui sera diffusé ce lundi à 7h, heure de Paris, sur RFI. Volkswagen, le géant automobile allemand fort de ses 10 marques, va réduire ses effectifs de 35 000 personnes d'ici 2030. Il faut dire que le marché intérieur est tâtonne, les ventes reculent en Chine, l'entreprise a traversé une des plus graves crises de son histoire à l'automne dernier. Alors dans ce contexte, l'annonce par l'administration Trump de droits de douane de 25% sur les voitures importées, elle tombe au pire moment pour Volkswagen qui vend 1 million de véhicules aux États-Unis. Pascal Thibault s'est rendu pour nous au siège du groupe pour savoir comment la population et les salariés perçoivent cette nouvelle mauvaise nouvelle.
À l'arrivée à la gare de Wolfsburg, la vue est imprenable sur le gigantesque site de Volkswagen, l'équivalent de 650 stades de foot. De l'autre côté, la ville avec son charme d'après-guerre, très discret. En cette journée printanière, de nombreux retraités prennent le soleil sur des bancs de la zone piétonnière. Ils ne sont pas menacés par les droits de douane, mais concernés. Volkswagen fait partie de leur ADN, comme pour cet Italien d'origine, Nicolas Motta, qui a fait toute sa carrière dans l'entreprise.
Volkswagen, c'est tout pour moi. Regardez le dos de mon téléphone. Là, c'est mon village en Calabre et en dessous, l'usine de Wolfsburg.
Le retraité est fier de ses deux fils, tous les deux ingénieurs chez Volkswagen à Wolfsburg et en Chine, mais également inquiet pour eux.
Si ça va mal pour Volkswagen, ça nous concerne aussi. On s'inquiète avec ce président américain. Nous n'avons pas confiance en lui. Le matin, il dit blanc, à midi, noir, et le soir, autre chose.
L'ingénieur Thorsten Bleibaum travaille depuis 30 ans chez Volkswagen. Pour lui, la crise sociale de l'automne dernier était bien plus grave que les droits de douane américains d'aujourd'hui.
Je ne peux pas confirmer dans mon entourage le pessimisme ambiant dans les médias actuellement, même s'il peut être justifié. Pour beaucoup, ces droits de douane, c'est beaucoup trop abstrait. Je ne crois pas que cela soit si dramatique.
Au café Pinocchio, Silvestro Gurrieri sirote un espresso. Ce Sicilien est arrivé dans les années 70 à Wolfsburg, où il a fait toute sa carrière. Membre du Parti social-démocrate et du puissant syndicat IG Metall, Volkswagen est sa deuxième famille.
Ces droits des douanes de Trump sont une catastrophe totale. Ça nous frappe fortement et on s'inquiète. Volkswagen a surmonté la crise de l'an dernier et maintenant, ces problèmes surgissent sur lesquels nous avons peu d'influence.
Alexander Jordan est le nouveau député de la circonscription. Ce chrétien démocrate a fait carrière chez un sous-traitant de l'industrie automobile et connaît bien le secteur.
Les inquiétudes sont palpables, même si la situation reste calme. Il n'y a pas de conséquences directes pour l'instant après l'introduction de ces droits de douane, mais elles se profilent à l'horizon.
Les droits de douane de 25% en vigueur depuis le début du mois pour les voitures exportées aux États-Unis s'appliqueront en mai à 150 produits fabriqués par les sous-traitants du secteur automobile. Pascal Thibault, Wolfsburg, RFI.
L'armée de terre française a reçu pour mission de se préparer à la guerre de haute intensité. Le conflit ukrainien a changé la donne pour les soldats français, les ordres se modifient. C'est toute une stratégie qui se durcit avec l'ambition de laisser plus d'initiatives à tous les échelons. Le commandement par l'intention, c'est un entretien avec le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, dans Ligne de défense avec Franck Alexandre.
Le commandement par l'intention n'a rien d'une formule creuse, dit le général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. Le commandement par l'intention est même au cœur de la réforme, à l'œuvre pour le modèle d'armée de terre de combat 2025.
Mon ordre principal, c'est penser opération, penser effet opérationnel. D'où cette injonction vers l'armée de terre d'ajuster son style de commandement, ses méthodes de commandement vers ce commandement par l'intention, c'est-à-dire donner le sens, laisser le pari de l'intelligence et puis être au rendez-vous sur l'objectif.
L'intention, soit dire les choses de manière claire et courte pour donner le cadre de l'action, mais chaque subordonné conserve une prise d'initiative possible afin d'atteindre l'effet majeur de son chef.
C'est clair que c'est une méthode qui doit s'appliquer à tous les niveaux. Cette notion de sens à donner, la façon dont on attend que tout soldat, quel que soit son niveau, puisse inscrire son action dans une action plus large, qui est l'atteinte de l'intention de son niveau supérieur, ça me semble primordial. C'est clairement une façon de gagner de la vitesse, c'est surtout une façon de gagner de l'adaptabilité, de prendre acte du fait que dans la complexité de la bataille, le plan peut difficilement être posé définitivement d'emblée, et qu'il sera important que chaque niveau puisse exercer son initiative de façon à contribuer à l'atteinte de l'objectif collectif, en ayant compris l'intention, le pourquoi de l'action et de la mission qu'il a reçue.
Les ruptures technologiques, la multiplication des capteurs, estime Pierre Schill, ne permettront jamais aux états-majors d'être omniscients. Face au déluge de feu d'un conflit moderne, les troupes auront toujours l'absolue nécessité de se disperser.
Il pourrait y avoir une illusion que un jour on aura des systèmes de commandement tellement puissants qu'on saura en permanence où se trouve chacun, et que un commandement tout à fait central pourrait donner des ordres à chacun des soldats sur le champ de bataille, un peu comme on le ferait dans une équipe cycliste. Je pense que c'est une illusion fondamentale. C'est une illusion parce que les unités militaires, et surtout dans les guerres qui sont potentiellement celles auxquelles nous aurons à faire face, appellent des unités de plus en plus nombreuses. Le brouillard de la guerre, la rugosité du terrain font que on ne pourra jamais diriger et avoir la totalité de la perception, des sentiments de chacun des soldats. Et donc, des échelons de responsabilité, de commandement intermédiaire devront continuer à exister. Régiment, compagnie, section, brigade, etc.
Pour remporter la victoire, le dernier des soldats comme le premier des généraux doit avoir la compréhension de la mission de l'échelon supérieur. L'initiative individuelle, insiste le général Pierre Schill, passe donc par le commandement, par l'intention.
C'était Ligne de Défense avec Franck Alexandre.
RFI Midi.
Dans notre reportage culture d'aujourd'hui, on vous présente l'exposition Into the Light qui s'est installée à la Grande Halle de la Villette à Paris. Un parcours immersif qui met la lumière à l'honneur et rappelle tous les rôles qu'elle a joués dans notre histoire et notre quotidien. Reportage signé Nour Marzougoui.
Imaginez-vous vivre dans un monde sans lumière. L'idée s'apparente davantage à un cauchemar qu'à un rêve, n'est-ce pas ? Et pourtant, la lumière est tellement omniprésente dans notre quotidien qu'on finit par oublier à quel point elle est essentielle. L'expérience immersive Into the Light nous rappelle que la lumière est donc devenue un besoin presque primaire. Qu'elle vienne du soleil, de la lune ou qu'elle soit artificielle, la lumière a toujours été une partie intégrante de notre histoire, car la lumière nous rassemble. Mathieu Debailly, commissaire de l'exposition.
La lumière, si vous regardez dans n'importe quel pays, des lieux où le soleil se couche ou le soleil se lève, vous trouverez des centaines ou des milliers de personnes qui tous les soirs regarderont ce spectacle-là. Et puis, elle aussi révèle que la lumière, elle fédère et elle contribue à vivre ensemble de manière positive et festive, puisque le dernier point final de l'exposition, c'est une place de village ou une fête foraine réinventée avec ces manèges de lumière qu'on a programmés. Et je trouve que cette lumière-là, elle fait du bien dans un monde qui n'est pas toujours très heureux.
Ce voyage lumineux est découpé en 5 actes et déployé sur 3000 m² pour un parcours d'environ 1h30. Parfois debout, assis, puis allongé à s'émerveiller devant les jeux de lumière, Into the Light est la preuve qu'une exposition immersive peut réellement l'être. Une promesse qui est souvent faite, mais rarement tenue, Mathieu Debailly explique comment ce projet relève le défi.
Il y a 10 ans est née cette envie de réunir une génération de créateurs à Paris, ville des Lumières, pour offrir au plus grand nombre, en tout cas, un spectacle total où la lumière serait le sujet principal. C'est un sujet qui peut paraître extrêmement banal, mais qui ne l'est pas du tout. On a vraiment créé un film narratif qui s'arrête sur ces lumières universelles qui ont inspiré des mondes antiques, ces lumières du quotidien. Et je pense qu'en venant à la Villette, on est sidéré parce que les systèmes qu'on propose Ils présentent des scénographies lumineuses qui sont souvent uniques au monde et qui permettent d'amener le sourire, qui permettent de remplir le cerveau d'images et de rêves qui font du bien.
Au fil des salles, on découvre une quinzaine de mises en scène signées par 10 artistes européens accompagnés de créations sonores ou d'effets sensoriels. Des œuvres interactives dans lesquelles vous vous sentirez hypnotisé, dérouté ou totalement apaisé. Mais une chose est sûre, après Into the Light, vous ne verrez sûrement plus la lumière de la même façon.
Et c'est la fin de cette demi-heure d'actualité internationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Benoît Gouttorbe, à la réalisation, à Christine Muraté, à la rédaction en chef. Vous pouvez la réécouter sur notre application mobile, RFI Pure Radio. Mais d'ici là, vous avez rendez-vous avec Nicolas Brousse pour Afrique Midi dans quelques instants.